Bonjour tout le monde. Merci d'être là présent aujourd'hui. C'est une journée assez spéciale parce qu'on a une grande fête, une fête de quartier qui va suivre cette célébration aujourd'hui. Et je veux particulièrement souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, soit en direct ou en différé. Alors, merci d'être là, merci de nous suivre. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez particulier. C'est l'approche diplomatique de l'apôtre Paul. Vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a fait un survol de Josué, puis on voyait au travers la deuxième partie du livre de Josué, les chapitres 12 à 24, comme quoi Dieu avait un plan parfait, mais que dans ce plan parfait, on pouvait vivre une vie imparfaite. Mais aujourd'hui, c'est dans un tout autre registre. On va faire un autre survol en deux parties. Survol d'une lettre qui est moins citée habituellement. Le livre de Philémon est rarement, je dirais, cité, mais il est rempli d'une richesse extraordinaire. Et plus on étudie, plus on découvre ce livre, eh bien, ça nous nourrit, ça nous enrichit. Et ce qu'on voit au travers de ce livre, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque l'apôtre Paul va user de diplomatie pour amener Onésime à accueillir un fautif. Et donc, comment il va s'y prendre pour faire passer le morceau? Et c'est incroyable, quand on lit cette lettre-là, comment l'apôtre Paul use d'un doigté, d'une finesse, et c'est tellement inspirant. Et lors de la deuxième partie, on va voir comment Paul va s'y prendre pour faire digérer le morceau. C'est l'autre étape, c'est l'étape qui suit. Eh bien, vous savez, le mot diplomatie, par exemple, eh bien, fait référence au doigté qui s'exerce entre les pays. Ça touche les communications, ça touche les valeurs. Et vous savez, il y a des farces qui ne sont pas à faire ou des blagues qui ne doivent pas se faire, par exemple, parce que d'un pays à l'autre, il y a des choses qui sont importantes. On sait, puis je citerai pas ces erreurs, mais par exemple, l'ex-premier ministre, Jean Chrétien, avait fait quelques farces dans d'autres pays, puis pour nous, ça aurait passé, mais dans d'autres pays, ça a touché les sensibilités. Donc, la diplomatie, c'est l'art d'être sensible envers l'autre, de se faire respecter et de pas créer ou de pas froisser l'autre. Et tellement que c'est important, c'est qu'il y a eu à Vienne une convention sur les relations diplomatiques et qui a été faite le 18 avril 1961, mais qui est entrée 3 ans plus tard, le 24 avril 1964. Et donc, les Nations Unies ont reconnu cette convention sur les relations diplomatiques et on en a un recueil qui est disponible. Un des événements, par exemple, c'est anodin pour nous. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, Louis Garneau avait demandé à son épouse de le photographier en présence de la reine d'Angleterre, mais il a mis la main sur l'épaule. Et selon le protocole, selon le décorum, ça ne se fait pas. Et donc, ça a été publié sur tous les médias. Qu'est-ce que Louis Garneau a fait là? Parce que dans le protocole, selon la diplomatie, ça ne se fait pas. Alors, des fois, on peut faire des gaffes, des erreurs sans se rendre compte parce qu'on manque de connaissances ou d'informations de l'autre. Et c'est là qu'on peut s'inspirer de l'apôtre Paul parce qu'il y a des éléments de base dans la diplomatie qu'on peut appliquer chacun d'entre nous. Et donc, comme je vous ai dit, c'est un livre qui n'est pas toujours cité. Et puis, Philémon, pour moi, quand j'ai entendu ce nom-là la première fois, c'était la référence que j'avais de Philémon avant d'avoir lu la Bible, c'était pour moi un personnage de bande dessinée. Les aventures de Philémon par Fred, qui est un personnage qui vit dans un univers psychédélique où est-ce qu'il y a deux soleils. À un moment donné, il tombe dans l'eau, il s'accroche après le A de l'Atlantique, tu sais, parce que sur les cartes, c'est marqué Atlantique. Lui, il s'accroche après le A. Alors, c'est un univers éclaté. Donc, quand je me suis mis à lire la Bible, j'ai vu le nom de Philémon. Je me dis, ouais, ça doit pas être la même chose, là, mais vraiment pas. Et donc, l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là lorsqu'il était en prison à Rome. Elle a été authentifiée par les pères de l'Église, donc elle a été reconnue comme faisant partie du canon des Écritures de la Bible, comme livre inspiré du Saint-Esprit. Et comment la Bible a été réunie? C'est un recueil de plusieurs livres qui forment un seul livre. Et certains disent, oui, mais c'est des hommes qui ont décidé que ça, c'est parole de Dieu. Mais écoutez, c'est un livre extraordinaire. Il n'y a aucun livre comme la Bible. qui a été écrit par plus de 40 auteurs sur 3 continents sur une période de plus de 1600 ans. Et aussi, c'est une réponse à une prophétie dans Ésaïe 34:16 qui dit « Consultez le livre au singulier, aucun d'eux au pluriel ne fera défaut, c'est mon esprit qui les rassemblera. » Il y avait une prophétie que le Saint-Esprit allait diriger des gens pour réunir ces livres-là et faire un livre qui allait justement nous inspirer et nous enseigner ce que Dieu pense, ce que Dieu dit des choses et comment connaître la vie éternelle en lui. Et donc, on voit également que John Knox, un collaborateur de Calvin, fondateur de l'Église presbytérienne en Écosse, a reconnu comme quoi c'était une lettre d'une richesse extraordinaire et qu'elle était inspirée de Dieu. Et donc, elle a été écrite à la même période que celle aux Colossiens, donc en Turquie, et elle a été livrée en même temps. Les deux lettres font mention, autant celle qui est adressée aux Colossiens, d'Archippe, d'Épaphras, d'Aristarque, d'Émas et Luc. Et elle est livrée par 2 personnes. Vous allez voir tantôt pourquoi elle est livrée par 2 personnes. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est livrée par Onésime et Tychique. Et Paul écrit à Philémon. Et lui, Philémon, c'est un personnage assez spécial dans cette église-là parce que l'église se réunissait chez lui. Puis, il y avait une église, une maison suffisamment grande pour accueillir l'église à l'époque. Et lui, il était assez riche, il avait des esclaves. Et il est possible que ce Philémon et Paul se soient rencontrés à Éphèse. Et donc, Onésime, c'est l'esclave de Philémon qui se serait probablement échappé après avoir volé son maître et s'être rendu à Rome. Alors, il rencontre l'apôtre Paul, se convertit, et se met au service de l'apôtre Paul à Rome. Et Paul le renvoie chez son maître, puis il écrit une lettre à son maître pour préparer son retour. Parce que ce qui arrive, c'est que quand Onésime a fui Philémon, le texte nous laisse entendre très clairement qu'il l'aurait volé. Et donc, il revient, et Philémon est comme, il a un petit goût amer de revoir Onésime, son esclave. Et c'est là qu'on va voir le doigté de l'apôtre Paul pour réintégrer Onésime dans l'entourage, dans le giron de Philémon. Et donc, c'est pourquoi cette lettre aura été apportée, pas uniquement par Onésime, mais également accompagnée de Tychique. Et c'est quand même courageux de sa part d'arriver avec cette lettre, avec Tychique, puis dire, « Hey, Philémon, me revoilà. » Et de faire face à cette situation, ça devait être quand même émotionnellement assez intense, assez particulier. Et donc, vous pouvez lire Colossiens 4, 7 à 9, Colossiens 4, 7 à 9 pour en savoir un peu plus. Et donc, le thème central de cette lettre, c'est de réintégrer un esclave fautif comme un égal. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise une approche diplomatique. Et ce que Paul veut communiquer à Philémon, c'est l'ADN de Jésus-Christ. Vous savez, dans Jean 15, 15, Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, ou ce serait mieux traduit par esclave. Dans le grec, c'est doulos. Parce que le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et on voit que Jésus-Christ arrive, puis il est en train de communiquer à ses disciples. Je vous appelle pas juste pour travailler dans la business de mon Père, pour être des travailleurs pour mon Père, mais pour participer, pour être partenaire à cette même œuvre. Et c'est là qu'il est en train de refaçonner toute la perspective de Philémon. Maintenant, tu vas le réintégrer, non pas comme un de tes employés, mais maintenant comme un égal. C'est tout un tour de force. Et de le faire avec doigté, c'est encore plus un tour de force. Et donc, l'autre défi, c'est que Philémon est blessé par la circonstance. C'est pas juste qu'il fuit parce qu'il se sentait pas bien, mais il l'a volé, il l'a déshonoré. Et donc, comment l'apôtre Paul a-t-il abordé un homme blessé? Eh bien, on va voir en renforçant les prérequis, en divulguant ses motifs, en préparant le terrain, en dévoilant la situation, en mettant en valeur Onésime, puis en démontrant sa connaissance de son interlocuteur. Et puis, c'est pour ça que je vous inviterais à lire ici à l'écran le chapitre 1 à 16 dans une autre version, la version d'Alfred Kuhn, tirée de la parole vivante, parce que pour une lecture publique, je trouvais que c'était un peu plus fluide, disons. Alors, chapitre 1. Paul en prison pour avoir servi Jésus-Christ et le frère Timothée. À Philémon, notre cher ami et collaborateur, ainsi qu'à Appia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus. Je ne cesse d'intercéder pour toi, cher frère, car ton souvenir se présente à moi chaque fois que je prie. Je remercie Dieu. Car j'entends parler de ton amour pour le Seigneur et pour tous les chrétiens, ainsi que ta foi vivante et loyale. Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi, qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. Que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher en lui. Oui, j'ai éprouvé une grande joie en apprenant comment tu mettais ton amour en pratique. On m'a raconté, en effet, mon frère, que tu as réconforté le cœur des autres chrétiens. Ces nouvelles sont pour moi une grande consolation. J'aurai à présent une requête à t'adresser. En tant que serviteur de Christ et dans la communion avec lui, je pourrais bien certes te donner des ordres en usant de l'autorité que Christ m'a conférée. J'aurais le droit de te prescrire ce que je considère comme ton devoir. Mais, en pensant aux liens d'affection qui nous unissent, je préfère en appeler à ton amour et t'adresser une demande en mon nom personnel. Oui, celui qui te présente cette requête, c'est Paul, un vieillard, et de plus maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je viens de prier en faveur de mon enfant. Oui, ici, dans cette prison, je suis devenu le père spirituel d'Onésime. Oh, je sais que jadis, il n'a guère fait honneur à son nom et qu'il était plutôt propre à rien. Mais aujourd'hui, il a bien changé. À l'avenir, il te sera certainement très utile, comme il l'est maintenant pour moi. Je te le renvoie donc, bien qu'il soit devenu comme une partie de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu m'assister en ton nom dans cette prison et me rendre les services que tu aimerais me rendre toi-même pendant que je porte ces chaînes à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment. Si tu veux m'accorder une faveur, il faut qu'elle soit libre et volontaire et que tu n'aies pas l'impression d'avoir eu la main forcée. Tu dois pouvoir être généreux de plein gré et accomplir de bonnes actions spontanées. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime t'a-t-il été retiré pour un peu de temps afin que tu le retrouves pour toujours. Et il te revient non plus simplement comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un vrai frère très cher. Il le sera encore plus pour toi à double titre, comme serviteur dans ta maison et comme chrétien, serviteur du même Seigneur. Recueillons-nous pour prier. Et comme j'aime dire, la raison pour laquelle on se recueille pour prier, c'est simplement pour déposer nos soucis, nos préoccupations et laisser le Seigneur visiter notre cœur, nous parler, recevoir avec douceur ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous appeler à méditer, afin qu'on puisse grandir et être enrichi par sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est d'une richesse et je suis convaincu que si on se mettait à étudier, à continuer à étudier, on redécouvrait des choses, des trésors dans cette petite lettre qui a un peu plus d'une vingtaine de versets, et puis, mais qui est tellement d'une profondeur. Et puisses-tu nous inspirer, nous apprendre à aimer les autres, aimer spécialement nos frères et sœurs dans la foi, et nous donner le doigté pour communiquer des fois des choses qui sont peut-être difficiles, et afin que chacun se réjouisse devant toi de ce que tu es un Dieu merveilleux, rempli de sagesse. Je te le demande dans le nom de Jésus pour la croissance de chacun de nous dans cette Église. Amen. Amen. Donc, en guise d'introduction, les auteurs, si on prend le chapitre 1, verset 1, eh bien, on voit que c'est Paul, le prisonnier, son collègue Timothée. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, Philémon, notre bien-aimé collaborateur. C'est la seule lettre que l'apôtre Paul se présente comme prisonnier. Je vous ai mis les références à l'écran, je ne les citerai pas tous, mais il y a 7 épîtres qui se présentent comme apôtre, une épître qui se présente comme apôtre et serviteur, 2 autres comme serviteur, et vous avez 1 et 2 Thessaloniciens où est-ce qu'il n'y a pas d'appellation, mais c'est la seule, l'épître à Philémon, qui se présente comme un prisonnier. Donc, il est en train, dès le départ, de faire un lien avec Onésime l'esclave, en disant, moi, je suis un prisonnier, je suis là, je suis esclave, je suis privé de ma liberté. Et on voit que aussi également que le nom de Timothée, eh bien, apparaît dans les traductions de 5 lettres de Paul, 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens. Philémon aurait été impliqué à l'église de Colosse quand Paul était impliqué, lui, à l'église d'Éphèse. Et donc, les destinataires au verset 2, on voit qu'à notre bien-aimé Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et l'église qui se réunit dans ta maison. Apphia, on pense que, la plupart des commentateurs pensent que Apphia, c'est l'épouse de Philémon et que Archippe serait son fils. Et parce que l'épouse à cette époque-là, dans l'Antiquité, on le voit par exemple dans la Genèse, les chapitres 37 à 50, l'histoire de Joseph. Et dans cette histoire-là, dans Genèse 37 et 50, on voit qu'à un moment donné, Joseph est esclave de son maître Potiphar, mais c'est son épouse qui s'occupe des esclaves. Et traditionnellement, à beaucoup d'endroits, c'était l'épouse qui s'occupait des esclaves, qui gérait le tout puis qui s'assurait à ce que tout soit bien fait. Et donc, et Archippe serait un compagnon d'œuvre, fort probablement un des pasteurs de l'église de Colosse qui aurait remplacé Épaphras. On voit qu'il est mention de lui justement dans Colossiens 4, 17. Et Paul avait même repris Archippe dans 4, 17 en disant « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir ». Mais il le mentionne comme étant un compagnon de combat, un soldat avec lui, comme quoi que c'était un homme qui marchait vaillamment malgré tout, malgré ses manques devant Dieu. Il marchait vaillamment devant Dieu. Et Paul veut que l'Église soit au courant de ce qui se passe et de ce qui communique à Philémon, parce qu'il dit à Apphia, Archippe, notre compagnon, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Il ne veut pas juste que c'est quelque chose qui règle avec Philémon, mais pour éviter les calomnies, pour éviter les médisances, puis pour s'assurer que tout le monde réintègre dans le même esprit ce Philémon qui a été fautif, eh bien, il veut s'assurer que l'Église comprenne bien le message également. Et c'est pour ça, dans ses salutations, il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expression à quelques variables près qu'il va utiliser dans l'introduction de ces 12 autres lettres. Et il va utiliser la grâce et la paix. La grâce, ça fait parce que dans les églises à l'époque, il y avait des juifs et des non-juifs. Et une salutation que les non-juifs aimaient recevoir, c'était « Je te souhaite justement... » que la grâce soit avec toi. Et chez les Juifs, c'était Eréné, dans le grec, c'est la paix, dans l'hébreu, le shalom. Ils se disaient shalom, que la paix soit avec toi. Parce qu'on sait que les Juifs, les Hébreux, ont été souvent en guerre, conquis, et puis ont dû se battre pour préserver leur territoire. Et comme on le voit encore aujourd'hui, l'histoire n'a pas changé. Et donc, comment l'apôtre Paul a-t-il abordé un homme blessé? Bien, en renforçant les prérequis. Il va donc exprimer sa reconnaissance et sa prière au verset 4. Il va dire, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. » C'est un privilège que Philémon avait parce que l'apôtre Paul prenait non seulement le temps de prier pour lui, mais il exprimait sa reconnaissance. Et moi, ça m'a inspiré en disant, est-ce que j'exprime devant Dieu ma reconnaissance? Est-ce que je prends le temps de m'arrêter puis observer des gens qui, justement, vont se démarquer, Vous savez, il y a des gens qui se démarquent parce qu'ils sont dans l'ombre, hein? Qui sont dans l'ombre, pardon. Il y a des gens qui se démarquent parce qu'ils sont des serviteurs fidèles, sont souvent oubliés, sont pas nommés en avant, sont pas applaudis, ils reçoivent pas de tape dans l'épaule. Mais savez-vous quoi? Ces gens-là, si c'est toi, dis-toi une chose, Matthieu 6, Dieu voit dans le secret. Mais lui, l'apôtre Paul, quand il voyait, il priait puis il exprimait sa reconnaissance. C'était pas un homme, mais il était rendu vieux, il était rendu un vieillard. Il avait passé l'âge de la compétition, puis de savoir, comme les 12 apôtres, c'est qui le plus grand parmi nous. Et donc, il a renforcé les prérequis en élevant sa renommée. Il a fait passer son caractère avant ses actions. Par exemple, on peut dire à quelqu'un « merci pour ta générosité ». On peut dire à quelqu'un « merci parce que tu es généreux ». On fait passer le caractère avant les actions. Ça renforce cette qualité dans cette personne-là. Ça édifie. Et quand j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus, de ton amour, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur et de ton amour pour tous les saints. Philémon, c'était pas n'importe qui. C'était pas juste un frère qui reprenait. C'était un homme de qualité. C'était un homme qui était reconnu pour son amour pour tous les saints. Et ça veut dire que dans une église, il y en a de tous les types. Il y a des gens bouillants, il y a des gens réservés, il y a des gens, je veux dire, que tout ce que le Seigneur demande, je veux dire, ils ont un appétit, puis il y a d'autres gens que c'est toujours à coup de compromis où ils vont faire le minimum. Mais peu importe, lui, là, il ne faisait pas exception de personne. Il dit, le Seigneur m'appelle à les aimer, je vais les aimer. C'était caractéristique de lui. Et c'est pour ça que Paul prend un doigté, puis il va élever sa renommée et dit, je veux juste te rappeler que toi, tu aimes tous les saints. Puis qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'y dire, pas sournoisement, il est en train juste d'éveiller sa réflexion. Paul est en train de dire à Philémon, sais-tu quoi? Il n'est pas en train de le flatter dans le sens du poil, il est en train de dire exactement ce qui est. Il n'en met pas plus, puis il n'en met pas moins. Mais il est en train d'y dire, il est en train de préparer à cette pensée-là. Puisque tu aimes tous les saints, pourquoi pas Onésime? Pourquoi t'exclus Onésime de cet amour-là? Parce qu'il était blessé. Il est en train de communiquer l'ADN de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on lira pas, mais je vous invite, vous pouvez le noter comme référence. Il nous dit dans Luc 14, les versets 12 à 13, d'aimer ou d'inviter les gens qui ne peuvent pas nous le rendre. C'est ça le cœur de Dieu. C'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. C'est une autre chose d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et ça, c'est seulement l'Esprit de Dieu, ayant travaillé notre cœur, qui peut nous amener là. Et donc, comment il va renforcer les prérequis? En mettant en valeur la visibilité de sa foi. Au verset 6, il dit, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. » En d'autres mots, on pourrait traduire le mot « participation » par « communion », par « solidarité ». Et ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul ici, ça démontre que ta foi n'est pas simplement une affaire publique, mais également communautaire. Et j'aimerais juste faire un petit arrêt là-dessus. Parce que dans les médias, dans la littérature, on entend continuellement, on est bombardé par un faux raisonnement. La foi, la religion, nos croyances, c'est quelque chose de privé. La foi, la religion, c'est privé. C'est privé. C'est vrai qu'il y a une dimension privée de la foi. Quand je prie tout seul, quand je parle au Seigneur, quand le Seigneur parle à mon cœur, quand je lis les Écritures, il y a une dimension. Quand j'ai reçu une foi Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur pour être sauvé, quand j'ai reconnu que je suis un fautif devant Dieu, un pécheur, un coupable, il y a une dimension personnelle. Puis c'est pas faux, mais c'est pas juste une dimension privée. Il y a une dimension communautaire. Ce que je vis avec Dieu, ça a un impact sur les autres. Ça a un impact sur mon attitude envers les autres. Ça a un impact sur mon service. Ça a un impact sur le don de soi. Ça a une dimension communautaire. Puis c'est ça qu'il est en train de dire. Ce que je demande, que ta participation à la foi soit efficace. Ça reste pas juste dans ton cœur. Vous savez, la Bible du Semeur, par exemple, va dire dans ses commentaires que ce verset-là pourrait être traduit par « Je demande à Dieu que la communion qui est unie à nous à cause de ta foi ou la Nouvelle Bible Second, à cause de ta solidarité qui découle de ta foi, produisent une meilleure connaissance de tous les biens que nous avons en Jésus-Christ. La foi en action fait en sorte que des gens voient l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Et ça part d'où? Ça part de quoi ça? Ça part d'avoir découvert tous les trésors qu'on a en Jésus-Christ. Tous les trésors qui sont à nous, toutes les bénédictions spirituelles qui sont à nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça part de là. Plus que j'ai une compréhension de ce que Jésus-Christ est ma richesse, plus que mon cœur va être enrichi et va enrichir les autres. Et c'est ça l'appel de l'Église. C'est ça l'appel de l'Église entre nous, entre frères et sœurs, mais c'est également l'appel de l'Église d'enrichir les autres, même si les gens ne se convertissent pas immédiatement, pour qu'ils puissent voir Dieu en action. On est des ambassadeurs de Christ, comme si Christ vivait en nous, comme si Christ exhortait les gens. Une manifestation de Dieu au travers d'une personne imparfaite, mais touchant les gens, voyant dire, est-ce que ça vous est arrivé des fois de dire, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, tu sais, mais wow, j'aime la vie qui l'anime. Au verset 7, on voit ici, nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Le cœur, les affections profondes, les émotions. Par son amour inconditionnel, les émotions des saints ont été tranquillisées. Et si ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ici, tranquilliser? Permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou tout travail dans le but de reprendre des forces, de se reposer, de prendre du repos, de rester tranquille, d'être dans une attente calme et patiente. Avoir une quiétude d'esprit, de la sérénité, être apaisé, être rassuré. Écoutez, Philémon, c'était pas n'importe qui, c'était un agent que quand vous étiez dans sa présence, vous étiez apaisé par son attitude, par ses propos. Il était réconfortant. Paul est en train de dire, il est en train de le préparer, tu pourrais-tu être cet homme-là pour Onésime? Je sais qu'il t'a fait mal, je sais qu'il t'a blessé. Tu as tout ce qu'il faut en Jésus-Christ, puis Dieu t'a donné à toi tout ce qu'il faut pour ça. Et notre Église, les Églises au Québec, et même, je vous dirais, la population du Québec ont besoin d'avoir de plus en plus de gens qui sont des agents de tranquillité, qui apportent le repos. Je vais vous dire pourquoi. En 2013, Québec Science publie un reportage qui s'appelle « La fabrique des fous ». Et j'aime pas le titre, mais c'est comme ça qu'ils l'ont titré. Un tiers des prescriptions d'antidépresseurs au Canada sont faites par des psychiatres et des médecins québécois. On est la région du Canada qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et je veux vous arrêter ici. Écoutez, si ma femme, ma première épouse, avait pris le bon antidépresseur, elle serait encore vivante aujourd'hui. Je ne suis pas contre les antidépresseurs. Je ne suis pas anti-antidépresseurs. Ils sont nécessaires. Mais le problème, ce n'est pas les antidépresseurs ou le problème, ce n'est pas les gens qui consomment les antidépresseurs. Le problème, c'est qu'on vit dans une société tellement intense, tellement folle, tellement exigeante qui nous amène à courir continuellement qu'on en a besoin. Et c'est correct, encore une fois, je dis qu'on en a besoin. Si le médecin vous prescrit ça, prenez-le, puis essayez pas de les enlever par la foi en disant « Ah, Jésus va me guérir ». Quand votre médecin va dire « Hey, là, t'es guéri, prends-les plus », écoutez-le. Mais ce que je suis en train de soulever, c'est qu'il y a tellement de pression dans notre société qui fait qu'il y a un besoin de repos, de tranquillité dans notre âme. Le besoin est là. Les Québécois n'ont jamais, sur le site sanspapiers.com, il y avait un reportage qui s'appelait Pharmageddon. En 2010, un Québécois sur sept prend des antidépresseurs. Les Québécois n'ont jamais consommé autant d'antidépresseurs. En 2010, c'est plus de 13 millions d'ordonnances qui ont été remplies uniquement dans la province. TVA nous disait, en citant Marie-Josée Fleury, professeure agréée au département de psychiatrie de l'Université de McGill, environ le quart des consultations portent sur des problèmes de santé mentale. Et je pourrais continuer là-dedans. Et ce qui est le plus alarmant, c'est nos jeunes. Sur le site grandtitre.com, c'est dit en février, qui a été publié en février 2015, ça fait pas si longtemps, là. Ils vont dire, en 2014, ce sont 2931 jeunes de 18 ans et moins qui ont consommé des antidépresseurs. Il s'agit d'une hausse de 65% par rapport aux statistiques d'il y a 10 ans. C'est un niveau record. Qu'est-ce qui est à la source? L'anxiété et le mal de vivre pour des gens de moins de 18 ans. Réalisez-vous que des Philémon, on en a besoin. On a besoin des gens pour apporter cette tranquillité, être des agents qui vont tranquilliser les gens. Malheureusement, à cause du temps, on n'aura pas le temps de voir toutes les causes de ça, mais il y en a quatre. Ils sont obligés de briller à tout prix. Le stress des parents, par exemple, affecte les enfants. On les balote d'une famille à l'autre, puis des familles en manque de repères. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à offrir, nous, l'Église, ici, en termes de repères, en termes de stabilité, en termes d'amour, en termes de réconfort? Et on a un rôle. On peut avoir un impact ici. C'est clair. Et le repos, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que l'Église a besoin d'offrir plus de Philémon aux Québécois. La tranquillité puis le repos, le mot tranquillité fait aussi référence à reposer la terre. C'est un terme d'agriculture, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prescrit à Israël de faire reposer la terre. Tu as cultivé pendant un certain temps, tu as fait reposer pendant un certain temps, pour pas tout tirer les jus de la terre, tous les minéraux, puis tout ça, pour que la terre puisse prendre le temps de se reposer, de se renouveler. Puis c'est exactement à ça que Jésus nous appelle quand il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, puis je vais vous donner du repos pour vos âmes. En d'autres mots, là, je vais vous permettre que votre terre se ressource pour être apaisée, puis pour être prêt après ça à être travaillé, puis à produire du fruit. Mais il y a des temps puis des saisons dans nos vies où est-ce qu'on se dit, hey, pourquoi c'est plus calme ma vie chrétienne en ce moment? C'est un temps pour te ressourcer, pour te remplir de l'amour de Dieu, pour te laisser remplir, parce que quand ça va être le temps de donner, là, tu vas avoir de quoi te donner. Le fruit va être abondant à ce moment-là. Mais il ne peut pas y avoir de fruit d'abondance s'il n'y a pas de séquence de repos. Et c'est pour ça que c'est important, spécialement pour les ouvriers qui se donnent. Je pense à notre pasteur Normand puis les autres pasteurs qui œuvrent à fond de train. C'est important de dire, hey, on va te donner un temps de repos pour que tu reviennes rafraîchi. Parce que c'est pas juste, écoutez, la plupart des pasteurs vont donner 50, 60, puis même des fois, il y a des saisons, ça peut être 80, 90 heures par semaine. Puis c'est pas juste, il faut pas quantifier l'œuvre d'un pasteur simplement en heures. Mais des fois, tu peux travailler une heure dans ta semaine, mais la charge, le poids, la préoccupation que ça apporte, ça peut être lourd parfois. Et c'est pour ça que des temps de repos, c'est indispensable. C'est toute l'Église qui va en profiter au bout de la ligne. On voit par exemple le repos pour nos âmes, Matthieu 11, 28 à 30, mais on a aussi le repos avant l'épreuve. On voit que Jésus vous vous souvenez quand les apôtres priaient, puis à un moment donné ils sont endormis, ils étaient dans le jardin de Gethsémané. Dans Marc 14, 41, vous pouvez voir dans Matthieu 26, 45, mais dans Marc 14, 41, il revient pour la troisième fois et dit « Dormez maintenant et reposez-vous ». C'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Mais avant que l'épreuve arrive, il voit qu'ils sont en train de dormir, il dit, OK, reposez-vous, parce que là, vous allez avoir besoin d'énergie. Là, le Fils de l'homme est livré, puis là, ça a été intense. Et donc aussi, se reposer après une activité. Marc 6, 31, ne pas attendre à la retraite pour se reposer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, Luc 12, 19. Et on voit qu'il y a des gens qui ont été utilisés pour tranquilliser l'esprit de l'ensemble de l'Église. On voit ça dans 1 Corinthiens 16, 18, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Des gens qui sont là pour apaiser, pour amener un repos, pour calmer la tension. C'est des gens précieux. Moi, je me souviens, j'ai connu des gens qui disent, hey, « il me semble que je fais rien dans l'Église. Il me semble j'essaie de servir puis je ne sais pas où aller. » Mais je dis, « Sais-tu quoi? Quand la célébration est finie, tiens-toi là puis reste là. Je peux pas juste faire ça. Oui, parce que quand les gens viennent te parler, là, ils sont apaisés, ils retournent chez eux, ils flottent. Tu es en train de servir Dieu, tu es en train de... Oui, mais c'est pas assez. Comment c'est pas assez? Faut qu'on te voit en train de pelleter, faut qu'on... C'est pas ça. Le don que tu as reçu, les qualités que tu as, c'est d'être là puis d'écouter les gens puis ça leur fait du bien. L'Église peut être tranquillisée par Dieu... L'Église peut être utilisée par Dieu pour tranquilliser ou soulager ses leaders. 2 Corinthiens 7:13, c'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Philémon 1:7 nous dit, si on revient dans notre lettre, « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » On va voir, on est appelé à être tranquillisé malgré l'adversité dans 1 Pierre 4:14, par exemple. On voit aussi que Paul a abordé un homme blessé en dévoilant ses motifs au verset 8. Il n'utilise pas la voie disciplinaire. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il va utiliser la voie de l'amour. Et il va dévoiler la situation. Il a tout dit ça pour arriver, il dit au verset 10, c'est seulement au verset 10, il dit, « Je t'adresse, frère, parce qu'il a préparé le terrain, et là, il dévoile la situation. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. » Il est en train de dire qu'il s'est converti, c'est son enfant spirituel. Il l'a amené à naître de nouveau. Et là, il va mettre en valeur Onésime. Il va parler de sa préciosité. Il dit, autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Parce que c'est ça que ça veut dire, Onésime. C'est un jeu de mots qu'il est en train de faire. Ça veut dire utile. Certains pensent que c'était son surnom. Mais peu importe, on l'appelait l'utile, Onésime. Et il va mettre en valeur Onésime en divulguant son attachement pour lui. C'est pas juste quelqu'un qui œuvrait, mais il est en train de dire, gars, c'est un être humain. Parce que souvent, peut-être pas dans la pensée de Philémon, mais à l'époque, un esclave, c'était comme une marchandise. Il y avait des bons maîtres, puis il y avait des maîtres exigeants, puis il y avait des maîtres qui étaient méchants aussi. Et il dit, je te le renvoie, et toi, accueille-le. Lui qui est une partie de moi-même. Et là, il va exposer le besoin. Au verset 13. « J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. » Et là, c'est là qu'il y a toute la diplomatie, parce qu'il connaît son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suggérer au lieu d'imposer. « Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Et il va anticiper la frustration. Il ne rentrera pas dedans en disant, « Ouais, je vais faire passer le message, j'ai dit la vérité, j'ai fait mon travail. » Non, il va anticiper, dire, « Si j'ai dit ça, c'est sûr qu'il y a une frustration. C'est sûr que là, le morceau ne passera pas. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » En d'autres mots, je ne veux pas te tordre un bras ici. Je veux juste te rappeler, Philémon, que toi, tu tranquillises les frères. Toi, tu tranquillises les frères. Tu as un amour pour tous les frères. Là, j'aimerais que tu l'accueilles. Je sais que tu es blessé. Mais est-ce que tu peux voir maintenant que c'est plus juste un esclave, mais c'est un frère, c'est un égal? De dire à un maître que son esclave, c'est un égal, c'est quelque chose. De la même façon, en Jésus-Christ, on est des frères et sœurs de Jésus-Christ. On est reçus dans la présence de Dieu comme un égal à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui avec assurance. Verset 15, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. » En d'autres mots, il est en train de dire, « Oui, peut-être que c'est un mal pour un bien, il t'a fait du tort. » Mais en fuyant, je l'ai rencontré, puis dans la souveraineté de Dieu, dans son plan parfait, il s'est converti, puis maintenant, notre frère aujourd'hui, puis tu vas le retrouver pour l'éternité. Il va donc témoigner de ce que le Seigneur a fait pour justement l'amener à passer le morceau, parce qu'il connaît son interlocuteur, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Jésus-Christ a eu cette même approche diplomatique avec la femme samaritaine dans Jean 4, 15 à 19. Et c'est pour ça, en conclusion, pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné cette lettre? Il veut nous démontrer son cœur à l'égard d'un fautif. Il veut nous démontrer dans une genre de télé-réalité qu'on est appelé à s'aimer les uns les autres. Pas seulement aimer ceux qui sont aimables, pas seulement aimer ceux qui nous font du bien, pas seulement aimer ceux qui tranquillisent notre cœur et notre esprit. Mais le défi de notre vie, le défi de ma vie, c'est pas aimer ceux que j'ai du plaisir avec eux. C'est pas ça le défi de ma vie. Le défi de la vie, là, où est-ce que continuellement je suis obligé de revoir Dieu puis je réalise mes limites, mes faiblesses, c'est d'aimer quelqu'un qui me tape ses nerfs. C'est de faire du bien à quelqu'un que j'aurais le goût d'y donner une tape sur le menton. C'est exactement le cœur de Dieu dans Luc 14, 12 à 15. C'est le morceau qu'il veut faire passer. Et c'est pourquoi la seule manière de ce que le Saint-Esprit puisse déverser cet amour-là en nous pour les autres, c'est à la croix. Puis j'aimerais ça qu'on puisse se recueillir pour qu'on puisse justement se remettre devant Dieu. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Pour dire, ben, pour remettre nos cœurs devant Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qu'on aime moins, que le Seigneur nous appelle à aimer. Et le Seigneur ne nous invite peut-être pas à dire demain matin, « Hey frère, il faut que je te rencontre, prenne un café, je veux te dire, je t'aime pas, puis j'aimerais ça apprendre à t'aimer. » Peut-être que ça va être une réflexion qui va durer 6 mois, 1 an. Peut-être que ça va t'amener à prendre conscience des choses dans ton propre cœur. Et le Seigneur, s'il a utilisé l'apôtre Paul avec doigté, avec délicatesse, puis il a préparé le terrain, mais peut-être qu'il va le faire dans ton cœur aussi, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul. Alors recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, pourquoi s'arrêter en se recueillant devant la croix? C'est pas parce que c'est un rituel religieux, mais c'est simplement que ça nous rappelle qu'on est fautif devant toi, qu'on est coupable continuellement, on est imparfait devant toi dans la vie de tous les jours. Ça nous rappelle que tu as payé pour nos manques d'amour. Ça nous rappelle que tu as payé pour les injustices qu'on a peut-être commises envers nos frères et sœurs, envers notre famille, notre entourage, ou qu'on a subi nous-mêmes. Parce que tu as été traité comme un injuste en étant sur cette croix. Mais elle nous rappelle aussi, Seigneur, puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tu as payé pour cela. Puis malgré nos fautes, on a du prix à tes yeux. Merci pour le pardon de nos fautes, merci pour le pardon de nos limites, Merci pour le pardon de nos manquements. Merci pour le pardon de nos offenses envers nos frères et sœurs, envers les gens de notre entourage, envers toi principalement. Merci de nous apprendre à aimer les autres, apprendre à communiquer avec douceur, avec amour, la vérité, de prendre le temps de connaître la personne qui est devant nous, de prendre le temps de la faire sentir à l'aise et de ne pas tordre le bras des autres pour qu'ils acceptent notre façon de penser et de le communiquer dans l'amour. Et Seigneur, je suis le premier qui a besoin d'être instruit par toi là-dedans. J'ai besoin de grandir là-dedans. J'ai besoin d'apprendre encore aujourd'hui à aimer ceux qui sont, à mes yeux, pas aimables. Alors, merci pour ta croix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et que dans cette Église, il y ait de plus en plus de Philémons qui vont être utilisés pour amener du repos, être une source de tranquillité auprès des gens autour d'eux. Dans le nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Merci.